Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes en mai 2024 et vous écoutez les chroniques de ProxyJeux. ProxyJeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et pour m'accompagner ce mois-ci, je suis avec la Sarah Connor du podcast ludique, c'est Mad. Salut Mad.
Salut Dédé. Ah, j'aime bien Sarah Connor, ça y est, je rentre dans la catégorie des héroïnes badass qui évoluent au cours de leur histoire. Quoi. Parce qu'au début, elle est un peu cruche quand même, Sarah Connor, si je me souviens
oui,
bien.
C'est vrai. Oui, dans le premier, elle n'est pas...
Et au fur et à
mais
mesure...
Mais après, elle a même sa série... Elle a même sa série à elle toute seule.
Ah, faut que j'aille voir ça. Par contre, je me souviens quand elle s'évade de l'hôpital psychiatrique là. Ouais, ça en jette.
Non, mais c'est parce que tu as comme elle, tu as combattu les intelligences artificielles et tu as remarqué qu'on a de nouveau nos génériques de base aujourd'hui.
Ah voilà, je me demandais d'où ça venait. Eh oui, c'est ça, on a battu les robots, mais bien sûr.
C'est ça.
Bon, en tous les cas, la scène dans l'hôpital, meilleure scène d'action. Enfin, c'est vraiment stylé, quoi. J'avoue que pas mal.
Ouais, mais les trois Terminator sont pas mal de mémoire. Ça fait un moment que je les ai plus revus.
Bah, moi, je les ai revus avec ma fille et franchement, ça va, quoi.
Ouais, je pense que ça n'a pas trop vieilli. C'est pas trop d'effet numérique, donc ça passe. Je sais pas, dans le deuxième, peut-être quand il se transforme en liquide, si ça vient vieilli ou pas.
Peut-être un peu, bon. Mais, mais bon, Sarah Connor, elle dissipe tout ça, quoi. Enfin, rien que pour elle, le film est super, donc continuons de le voir.
Et alors, ceux qui sont super aussi, c'est nos donateurs et donatrices.
Oui, c'est vrai. Et on tenait à les remercier ce mois-ci encore. Merci à Deckmoon, Philippe Leray, Gaël, Frédéric, El Piero 50, Robinocrite, Altaripa, Yann Loïc, Hervé Rossé, Retrofix, Nox, Delotte, Chacado et Laurent 36.
Et nous remercions aussi notre sponsor. Alors c'est nous remercions la caverne du Gobelin qui nous soutient.
Non, mais t'aurais dû prévenir, j'aurais préparé les instruments.
Ça reste en tête, en fait. Enfin, moi, je l'avais en tête pendant tout le mois.
Ouais, moi, c'est le générique de début que j'ai eu en tête tout le mois. C'était infernal.
Et donc, la caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques, c'est ça à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Il n'y en a pas eu une nouvelle depuis
Je ne crois pas.
Il s'arrête un peu.
Non, je n'ai pas suivi, je suis restée à 6.
Ah, on n'a pas eu le mémo sur la 7e.
Non, rien.
Bah, la 7e, c'est le site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. C'est un peu une 7e boutique. La boutique virtuelle.
Ils sont déjà dématérialisés. Ouais.
Nous allons donc enchaîner tout de suite sur les commentaires. Alors, est-ce que ce générique a fait... la proposition de nouveau générique a fait débat ?
Eh bien, ça a été un sujet de discussion dans les commentaires avec Leech qui a dégainé le premier en disant que ça lui faisait penser à des dessins animés des années 80, mais qui préférait quand même le générique habituel. Et d'ailleurs, grâce à cette expérimentation que tu as faite le mois dernier, il s'en est rendu compte qu'il était vraiment très bien.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Tu vois. C'est comme ça, on se remarque que les choses nous manquent quand on les a plus.
Et Delotte a confirmé qu'effectivement, ça lui faisait penser aux séries des années même 90. Et il en a cité quelques-unes, notamment Notre Belle Famille. Je ne sais pas si tu te souviens de cette série.
Ça ne me dit rien, ça. Le nom,
bon, c'est
le nom, je ne sais pas.
C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Tu rates rien. Par contre, il réclame que ce soit les gens de ProxyJeux qui chantent les génériques parce que il a entendu Elodie chanter, Cyrus. Et donc, il se dit, à quand un générique chanté par les membres de la Proxy Team ? Peut-être pour un numéro spécial.
Ouais, on peut faire ça, ouais, pour un numéro spécial. On prend la musique et on chante nous par-dessus. Et Gerny Lolo nous a même appelé Stone et Chardin, tu vois.
Ouais, et Il en veut d'autres des génériques, je crois.
Lui, il en veut encore. Alors, j'ai rien prévu là, mais peut-être pour le prochain, je vous ferai peut-être une petite surprise si j'ai un peu de temps pour vous faire ça.
Alors, la surprise, si tu veux faire plaisir à Yann Leproto, c'est que ce soit toi qui chantes, en fait.
Ah, ben voilà. Ben oui, écoute, je vais peut-être faire ça. Je peux, on peut enlever les voix sur une chanson et je peux après rechanter par-dessus.
Okay.
Mais je ne garantis pas la qualité.
Attention, hein, tu sais qu'on est enregistré là.
Ah mince, mais bon, je couperai ça au montage.
Sinon, il y a eu des retours aussi sur la choupitude des joueurs nés. C'est vraiment la surenchère mois après mois avec les enfants qui expliquent des mots comme... Enfin, qui questionnent leurs parents sur deck building ou d'autres termes. C'est vrai que même quand on n'a pas d'enfants, nous disent nos auditeurs, eh bien, ça donne envie de... Comment dire, la chronique est appréciée.
Ah, ça donne pas envie d'avoir des enfants, ça, quand même.
Ah bah ça, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans la vie des gens, hein. Mais en tous les cas, ça intéresse de plus en plus de monde. Et en fait, on utilise les enfants pour accoler des auditeurs et des auditrices supplémentaires, j'ai l'impression.
Bah, il y avait déjà, comme le souligne Kinarbre, un enfant qui demandait c'est quoi le deck building dans le générique de ma chronique d'il y a 10 ans, quoi. Où j'expliquais les jeux de société.
Ah oui, c'était la grand-mère de Jocelyn, c'est ça ?
Ouais, c'était la grand-mère qui posait les questions et moi qui répondais, et les enfants qui étaient au générique. Trois générations de podcasteurs.
Oui, on devrait faire d'ailleurs, il y a la chronique Joueur Né qui s'adresse aux parents et qui présente les jeux pour enfants. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une chronique la saison prochaine sur la présentation de jeux pour des personnes du troisième âge.
Ah bah oui, il faut ça.
Pourquoi
pas ? On parlerait du Brindlewood Bay, peut-être ?
Oui, je pensais pas à celui-là. Après, ça va leur rappeler leur vécu, tu vois. Il faut...
Avec des textes écrits plus grands.
Oui, c'est ça.
Ça m'est arrivé, ça. Hein. J'ai acheté un livre de mots croisés. Alors, j'ai pris un peu au hasard, je l'ai feuilleté. Et après, j'ai vu sur la première page, mais sur la deuxième page derrière... où c'est marqué, version XXL, voilà, avec les textes. Et les textes, sont écrits plus gros dans les cases que dans les mots croisés du commerce, ceux qui sont dans le journal. Tu vois, ils sont toujours écrits assez petits parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Là, ils prennent de la place, donc c'est assez agréable.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as trouvé ça plus confortable ?
Oui, et c'est là que je me suis dit, ah, je vieillis.
Je suis la cible.
Oui, c'est ça. La cible, vous assumez pas de mettre vos lunettes, prenez ce mot croisé avec des textes un peu plus grands.
Ensuite, il y a eu des retours sur les analyses du Pionfesseur sur les jeux d'encerclement et Thespios qui se demandait si Othello et Q-Birds n'étaient pas un sous-genre des jeux d'encerclement. Bon, on laisse le Pionfesseur rajouter un PS, un post-scriptum à sa chronique, ouais. S'il le veut.
Oui,
le mois prochain.
Parce que là, ça devient pointu. Hein. On est dans le pointu. Est-ce que c'est de l'encadrement, de l'encerclement ? Alors, hein, c'est l'analyse chirurgicale.
Non, mais il faut être précis. Il faut être précis. Donc, merci à Thespios pour ce retour. Alors, il y a eu pas mal de commentaires, hein, concernant cette chronique. Delotte, justement, proposait deux exemples supplémentaires en citant Forêt mixte et Dorf romantique. Bon, on vous invite à aller voir un peu les explications qu'il donne pour justifier cette affirmation. Mais c'est pas le seul. Hein. Laurent 36 aussi a cité des jeux Pandoria, Crazy Farmer. Bon, allez voir si cela vous intéresse.
Et puis, Delotte, il nous parle d'organiser un festival, alors c'est ça
Oui, c'est ça, parce que la dernière fois...
Il a un grand jardin.
Oui, la dernière fois, dans les commentaires, tu te souviens, on avait abordé la question de peut-être organiser un festival chez Delotte avec quelques tables et quelques chaises. Et il confirme qu'il a un jardin assez grand, même si la maison est petite, et qu'avec une bonne organisation et quelques tentes, on pourrait organiser un festival chez lui.
Une bonne idée d'aller chez Delotte. Allez, hop, ouais. On organise ça pour l'année prochaine.
Par contre, on ne sait pas où c'est exactement. Mais bon, on a le temps de voir
venir. Oui, c'est vrai que c'est un problème, ça.
On a le temps de voir venir, si c'est l'année prochaine. Et puis après, il se demande comment s'est passé le festival de Poids du Nord. Comme ça, c'est Yann Le Proto qui pose la question. Et il trouve qu'on n'a pas eu assez d'infos le mois dernier. Alors, comment te dire ? Ça a été un festival assez chaotique auquel je n'ai pas participé très longtemps parce que j'ai eu une suspicion de Covid. Ouais.
Ah là là.
Donc j'ai expliqué des jeux pendant 3 heures en étant complètement à faune. Et en fait, pour la sécurité de tous, une fois que j'ai perdu mon odorat, je me suis dit, je vais peut-être rentrer chez moi.
Donc c'était pour cause de maladie, tu t'es pas fait virer de Poids du Nord.
Ah non,
Mad. Mais bon. Il y a trop de fans, il y a la queue pour aller à une explication par Mad. Ah non, les autres sont dans l'ombre et tout ça. Non, ouais. C'était pas pour ça, c'était raison médicale.
Bon, visiblement, personne m'a demandé à demander après moi auprès des organisateurs. Bon, je pense que c'était moi la plus déçue de l'affaire parce que quand tu passes quelques semaines à préparer un festival et pas pouvoir y assister, enfin avoir juste eu le temps d'installer les tables et les chaises.
Et est-ce que tu étais remise pour le nettoyage le dimanche ou comme
je leur ai juste envoyé un message, bon courage pour le rangement. Bref, mais bon, l'année prochaine, moi je lui donne rendez-vous l'année prochaine. Apparemment, il habite à 567 km de Poids du Nord. Donc, je vais tracer un cercle de centre Poids du Nord et de rayon 567 km. Et je vais faire quelques hypothèses sur l'endroit où habite Yann Le Proto.
Et est-ce qu'il faudrait que Delotte aussi nous donne à combien de kilomètres de Poids du Nord il habite, qu'on puisse trouver où aller jouer chez lui.
C'est comme la quête de la chouette d'or, c'est trouver la localisation de Delotte.
Laisse-nous, on va reprendre tous ces commentaires qu'il a laissés sur le site et on va voir s'il n'a pas laissé un indice, tu vois.
Ouais.
Quand il dit « Ah, quand je suis allé à Paris et Ludique à 263 km de chez moi », et on va comme ça regrouper tous les... Parce qu'on est assez fan de jeux d'enquête, on va pouvoir recouper toutes les informations que nous a laissé Delotte sur sa position et on pourra débarquer chez lui... Pour faire ce festival.
Ouais. Alors je me demande s'il n'a pas déjà caché beaucoup d'informations dans les commentaires des chroniques du mois dernier, parce qu'il en a laissé beaucoup des commentaires, et des commentaires assez fournis, notamment sur Autour du jeu, qui parlait de Cuba. Il a mis toute une liste de recommandations, de références. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller consulter également ce commentaire-là.
Ouais.
De toute façon, il a parlé de toutes les chroniques. Il a parlé de Au plateau comme à la ville, il a parlé de... donc, on avait dit des commentaires, du pionfesseur. En fait, pour chaque chronique, il a eu son petit mot sympa et puis son retour. Donc, on est très friands de tout ça. Hein. Surtout, ne t'arrête pas.
Bah oui, merci pour ces commentaires. Et on a eu aussi des compliments, et ça fait toujours plaisir.
Oui, on a eu tout un florilège de compliments. Super épisode comme toujours, belle émission comme toujours, continuez comme ça, c'est un bonheur de vous écouter. Bon, je dois quand même faire mes excuses à Bis, parce que visiblement le son de ma chronique, en tous les cas le générique de Monsieur Cyclopède, lui éclate les oreilles à chaque fois. Donc là, j'ai fait un effort, j'ai baissé le volume. En fait, je voulais réveiller un peu les gens, tu vois. Parce que comme... Enfin, on ne va pas revenir sur le sujet, mais voilà, pour garder les gens éveillés en nous écoutant, je me dis, un petit coup de réveil de temps en temps, c'était peut-être une bonne idée. Mais si j'éclate les oreilles des auditeurs et des auditrices, c'est contre-productif. Parce que s'ils n'ont plus de tympan, ils ne vont plus nous écouter.
Ah oui, et s'ils n'écoutent plus, ils ne donnent plus.
Oui, j'allais pas si loin dans mon raisonnement. Moi, j'étais juste sur la reconnaissance du travail accompli. Bon, ok, d'accord.
Mais non, mais il nous faut plein d'argent pour organiser ce festival chez Delotte.
Et après, ils vont avoir besoin d'argent pour se soigner, tout ça, des tympans. Et puis la mauvaise conscience aussi. Enfin, moi, je sais pas si je me remettrai complètement de savoir que j'ai éclaté les tympans de personnes qui nous écoutaient, quoi. Oh là là.
Et alors, avant d'aller chez Delotte,
oui.
où est-ce qu'on va jouer ?
Alors, tu sais que, parce que tu as écouté les interviews de Proxy Jeux qui ont été faites à Cannes et que...
Bien sûr.
Les organisateurs de Paris Ludique ont bien confirmé qu'il n'y aurait pas de festival cette année. Et j'avoue que j'ai pas eu le goût de trouver d'autres festivals.
Ah, ok, bah ouais, c'est le... en deuil.
Voilà, j'ai erré sur la page de Subverti pour voir un petit peu tous les festivals. Et puis, tu vois, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, qui a attiré mon attention, mais je crois que c'était parce que j'étais trop affectée de cette annulation.
Oui, bah oui, par ce... Ouais. Pourtant, il y aura plein de jeux à Paris, des jeux olympiques.
C'est ça, pas le même genre de jeu. Et puis des jeux un petit peu plus chers aussi. Et puis des jeux qui ont un peu plus de conséquences sur la vie quotidienne des gens aussi. Bon, si, on va quand même citer un festival, parce que c'est un message que Pov nous a envoyé.
Ah bah oui.
Il nous a dit que le 7, 8 et 9 juin 2024, à Albi, il y avait le Glouz Festival qui était organisé. Et c'est un anniversaire, ce sont les 10 ans de leur festival. Au début, c'était simplement une soirée jeu à la ludothèque. Et l'année dernière, ils ont eu près de 3500 visiteurs.
Ah, c'est pas mal ça.
Belle entreprise, joli projet. Et donc, il cite un petit peu les quelques auteurs qui vont venir voir. Et puis, on mettra dans le billet les coordonnées, le lien pour voir les informations du festival. Et puis, petite particularité, ils ont un podcast qui présente l'organisation du festival.
Ah, c'est de la concurrence.
Oui, mais c'est de l'événementiel. Ah, non, nous, on fait quelque chose sur la durée. Donc,
au moins, ça... Vous qui nous écoutez, vous savez ce que c'est un podcast, vous allez facilement pouvoir l'écouter. Je pense que vous êtes la cible. On a réussi à placer le « vous êtes la cible ».
Ouais. Okay. Donc, je fais une petite coche, comme on a dit, sur mon papier, c'est ça. Et puis, on compte combien on en aura dit.
Quand tu as une ligne, tu cries bingo.
Ok, ça marche.
Son festival, c'est Glouz Festival.
C'est ça.
Et alors, est-ce que tu sais ce que c'est la glouze ?
Oui.
Oui,
je crois savoir où tu veux en venir.
même pas tant que ça. Mais alors, voilà, glouze, c'est le fait de perdre le méjon, le lose et de gloire. Glouze. Et alors, tu veux nous avouer quelque chose que,
oui.
que tu as été glorieuse?
Oui, en fait, j'ai fait une partie de... Dots and Boxes sur BGA.
De Pipo Pipette, c'est ça?
Contre quelqu'un dont on a déjà abondamment parlé depuis le début de cette émission, puisque c'est Delotte encore lui. Et en fait,
sacré Delotte.
Par un concours de circonstances, on s'est retrouvés connectés tous les deux en même temps sur BGA. Je venais voir un peu les nouveautés. Et alors, je ne sais plus qui a lancé la proposition à l'autre, mais en tous les cas, nous voilà embarqués dans une partie que j'ai perdue.
Damned, mais pas de beaucoup.
Voilà, donc c'est la lose. J'ai perdu 3 points. Et en fait, je vois très nettement le moment où tout a basculé. J'étais confiante, hein, je partais bien. Et puis, je ne sais pas, un excès de confiance. Alors par contre, depuis, il n'a plus voulu rejouer parce qu'il veut rester sur sa victoire.
C'est pas bête.
Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Il a eu la victoire de gentleman. Il n'a pas trop
frimé.
Non, tout à fait. Voilà. Il m'a dit que j'aurais ma revanche quand même, mais pas tout de suite.
Ok. On va pouvoir attaquer alors les chroniques. C'est pourquoi on est là. Alors, on commence toujours avec le point wiki. Le point wiki, c'est le contrôle. Alors, non, rassurez-vous, c'est pas une interrogation sur tous les mots du point wiki qu'on a fait depuis le début de l'année. C'est le contrôle de zone ou contrôle de territoire. C'est une mécanique de jeu où les joueuses rivalisent pour prendre le contrôle d'aires spécifiques sur le plateau de jeu. Donc l'histoire de la zone de contrôle de territoire remonte à l'Antiquité avec des jeux de guerre et de stratégie. Et notamment, il cite dans l'article le jeu Risk en 1957, qui est un des premiers à populariser cette mécanique.
Alors j'ai un coming out à faire là tout de suite. Je n'ai jamais joué à Risk.
Ah là 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 là.
Est-ce que je peux continuer cette émission?
Oui, oui, tu n'as pas perdu grand-chose. tu as remarqué qu'il n'était pas encore dans Sortons le grand jeu. Ça prouve bien.
Oui, c'est vrai. Et puis, de toute façon, en 1957, j'étais pas née. Donc
Et comme tu joues que à des nouveautés. Ah, non,
oui, c'est ça. 1957, oui, c'est exactement ça. Je joue que des nouveautés. En tous les cas, cette idée de contrôle de territoire avec un plateau, ça m'a fait penser au plan en relief que l'on peut voir au Palais des Beaux-Arts de Lille, au sous-sol. En fait, ce sont des tables gigantesques sur lesquelles sont représentées de façon extrêmement précise les villes de la région et même la campagne à l'époque de Louis XIV. Et le niveau de précision était tel que même sur les petites maisons qui étaient représentées, il y avait le nombre exact de fenêtres, parce qu'on ne sait jamais, lors d'une retraite, on aurait besoin de passer par la fenêtre de derrière. En tous les cas, c'était des plans qui étaient transportés, alors je ne sais pas trop comment, tirés par des chevaux, parce que c'est vraiment des trucs... Voilà, c'est pas des meubles Ikea que tu peux transporter facilement. Et Louis XIV s'en servait pour faire la guerre, en fait. C'était un peu les cartes d'état-major en 3D, quoi.
On se remémore, enfin, on se repère plus au niveau du s'il y a, voilà, s'il y a du relief, les collines, comment elles sont, où se placer, c'est plus visuel, quoi, pour jouer. Enfin, pour faire la guerre, surtout.
Ouais, c'est ça. Après, peut-être que Louis XIV, il avait l'impression de jouer, lui. Ça, je ne sais pas.
Ah bah oui, je pense lui, il n'était pas trop inquiété par la guerre. Je suis loin derrière.
En tous les cas, rien que le fait de déplacer les tables, ce n'était pas une partie de plaisir. À mon avis, les gens, ils ne devaient pas trop rigoler à les déplacer. N'empêche que ça reste un objet vraiment un peu fascinant. Et puis, tu as du plaisir quand tu connais les villes en question de regarder comment c'était fichu à l'époque de Louis XIV, quoi.
Ouais, à l'époque, ouais.
Super pièce de musée, quoi. Alors, est-ce qu'on peut faire du risque sur les tables à Louis XIV?
je ne sais pas
si c'est autorisé.
Mais après, moi, j'aime bien les jeux de contrôle de zone et de territoire, parce que souvent, c'est des jeux avec des moutons. Moi, j'aime bien, quoi, les jeux de... jeux de contrôle de territoire, un peu. Il y a souvent des... Alors, j'ai pas de truc là en tête, mais souvent il y a du mouton et ça me plaît bien.
Dans Risque, il n'y a pas de mouton par contre. Enfin, j'ai pas l'image.
Non, je crois pas. Il y a des canons. C'est pas la même utilité.
Mais après, il y a eu plein de versions de Risque, non? C'est comme le Monopoly, non?
Peut-être qu'ils ont fait risque à la ferme.
L'extension mouton.
Voilà.
En tous les cas, si ça n'existe pas, amis éditeurs. Voilà, on vous livre l'idée, quoi.
Alors, la chronique suivante, c'est la tienne.
Revenons à nos moutons.
Voilà, revenons à nos moutons. La chronique suivante, c'est la tienne. Donc, on va écouter tout de suite. Alors, attention, baissez un peu le son, même si on a fait un peu des efforts.
Non, j'ai fait attention.
Préparez-vous, ça va commencer.
La mise en place du jeu est terminée, la règle est expliquée et à peu près comprise par tout le monde, reste à déterminer qui va commencer. Bienvenue dans la Minute Mad qui explore aujourd'hui les différentes façons de choisir la personne qui jouera la première. La solution de facilité consiste à utiliser les âges. À Carcassonne, Punto ou Saute-Lapin, c'est la plus jeune qui commence. À Catane, Tikal ou Affaire de Flair, c'est le plus âgé. Quand le jeu en contient, les dés sont souvent sollicités. Au Cluedo, l'enquêtrice qui fait le plus grand score pose la première question. À King of Tokyo, c'est le monstre qui obtient le plus de grosses baffes qui débute la partie. Si beaucoup de jeux se contentent d'un laconique « Choisissez aléatoirement un premier joueur », certaines règles sont plus inventives. Je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Tout d'abord, celles qui se fondent sur les caractéristiques physiques. Le plus petit en taille et premier joueur dans Myrmes, c'est la plus grande à Takenoko. Saute-Lapin, celui de chez Abba, c'est la personne qui a les plus longues oreilles. Cache-Cache Loustique, qui a les oreilles les plus poilues. Small World, les plus pointues. Galerapagos, celui qui ressemble le plus à un naufragé. Cartagena, celle qui ressemble le plus à une pirate. La vallée des Vikings, celui qui ressemble le plus à un viking. Il était une fois la personne qui possède la plus longue barbe. Sbire, celle ou celui qui a les ongles les plus sales. Dig Your Way Out, celui ou celle qui possède la cicatrice la plus impressionnante. Certaines règles se basent sur les qualités ou talents des personnes. Top Ten la plus drôle, Everdell le plus humble, Colline au feu follet la plus courageuse, Drôle de zèbre celui qui a le moins peur des lions, Pict It la plus intelligente, Clank le plus fourbe, Picomino celle qui imite le mieux le dindon, Super Miaou, celui qui imite le mieux le miaulement du chat, Vilenius, celle qui a le rire le plus machiavélique, La Danse des œufs, celui qui saute le plus haut, Watson et Holmes, celle qui possède le meilleur talent de conteuse. Ou encore, sur comment est la personne. Happy City, la plus heureuse, Chakra, le plus stressé autour de la table, Onyx, celui qui s'appelle Pierre ou celle qui s'appelle Jade, Anabi ou Colpa, le joueur qui a les vêtements les plus colorés, Hit, celle qui a le plus grand chapeau, Time's Up, le chapeau doit être un sombrero. Mais la façon la plus répandue de choisir est le « c'est arrivé récemment ». Pandémique, celui qui a été malade le plus récemment. Wonderland War, Kintsugi, celle qui a bu le thé le plus récemment. Hats avec un cookie. Crime Hotel, le dernier à avoir lu un roman policier. Crime Bet, la dernière à avoir assisté à un meurtre. Salade de poing, le dernier à avoir mangé de la salade. Flamme Rouge, la dernière à être montée sur un vélo. Charlatan de Belcastel, celui qui a cuisiné quelque chose en dernier. Bruges, cela devait être une friture. Cat in the Box, celui qui a rencontré récemment un chat. Chabyrinthe, le chat devait être noir. Clockworker, celle ou celui qui a le plus récemment réparé une machine défectueuse. Rebelle Princess, la dernière personne à être allée à un mariage. Keltis, le dernier joueur à avoir posé les pieds en Irlande. Marrakech, au Maroc. Azul, au Portugal. Chinatown, la dernière à avoir visité un Chinatown, que ce soit celui de New York, Montréal, Paris. Les ruines perdues de Narak, celui qui a voyagé le plus récemment vers un endroit qu'il visitait pour la première fois. La guerre des moutons, le dernier à être allé à la campagne. Forêt mixte, Locomomo en forêt. Acropolis, la dernière à avoir gravi une colline. Bazar bizarre, la dernière personne à être descendue à la cave. Valeria, le royaume, le premier joueur est celui à avoir combattu un troll à deux têtes ou invoqué un démon du troisième cercle ou juste tiré à l'arc le plus récemment. Si aucun joueur ne répond à ces critères, pourtant faciles, lancez les dés, le plus grand score l'emporte. Dans Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza, le joueur à la gauche de la personne qui a distribué commence. Mais dans ces cas-là, comment choisir celui qui distribue ? Étonnant, non ?
Étonnant et instructif. Merci, Mad, pour cette minute.
Oui, alors on peut dire maintenant les 5 minutes, Mad. Oui, c'est ça. Plus ça va, plus je m'emballe. Tout augmente, c'est l'inflation.
Alors que c'était le premier joueur. Alors, tu fais sur le premier joueur à la fin de la saison ?
Ah oui, bah, tu sais, je fais comme les idées me viennent. rien n'est prévu, rien n'est anticipé.
Ah, mais moi j'aime bien quand le premier joueur il est lié au thème du jeu, je trouve. Voilà. Ça prouve que l'éditeur il a quand même cherché un petit peu à thématiser, et si on dit juste c'est le plus jeune ou le plus vieux ou choisissez un joueur, je suis toujours un peu déçu de ça.
Ouais, je comprends. Mais des fois, c'est un peu cringe quand même. Celui qui a la cicatrice la plus impressionnante, bon, je sais pas.
C'est parce que tu n'as pas de cicatrice.
Oui, c'est ça. Si, j'en ai une. J'en ai une sur le front, monsieur.
Ah, bah, moi aussi.
Sur le front aussi ?
Oui, sur le front. À l'arcade sourcilière.
Ah ouais, moi, c'est. J'aime beaucoup notre conversation. Moi, c'est au niveau de. Au début du cuir chevelu. Je me suis cogné contre un radiateur en fonte. Et toi ?
Je pensais que tu étais allé me dire que c'était un combat dans un bar.
Oui, c'est ça.
Bah, moi, c'est
toi, c'est un combat dans un bar, esprit. Peut-être. Toi, c'est un combat dans un bar,
non.
Peut-être.
Non, on faisait une pyramide humaine sur.
C'est toujours une bonne idée. Une ça commence bien.
Voilà. Une pyramide humaine dans une piscine et ça tourne mal. Voilà. Oh là là. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça n'a pas bien fini.
Bon, bah, puisque tu aimes bien les premiers joueurs, les conditions de premiers joueurs un peu thématisées, je te propose un petit jeu.
Oui.
Je vais te donner une condition pour déterminer la personne qui va jouer la première, et puis tu vas essayer de trouver de quel jeu il s'agit.
Ok.
Alors, celle qui a visité le plus récemment une cathédrale.
Est-ce que ça peut être... Alors, c'est un jeu où on doit faire une cathédrale. Il y en a pas mal. Est-ce que ce serait 3 ?
Alors, on va dire avec des dés dans les poches. Plein de dés.
Sagrada ?
Oui, bravo, bonne réponse. Ouais. Un point pour des dés. Deuxième jeu. Le joueur qui s'est servi d'une aiguille en dernier commence.
D'une aiguille Oh, c'est Acupuncture the Game.
Waouh, bravo, je ne savais pas que tu connaissais ce jeu. Alors, ce n'est pas
non,
le même genre d'aiguille.
Ça ne me dit rien. Une aiguille, c'est un jeu de tricot alors. Il y a quoi, patchwork ?
Oui, bravo, bien joué.
Ah, et pourtant, je l'assume. Ah, mais je l'ai en allemand, c'est pour ça.
Et dernière tentative, ouais, tu continues ? Bah, tu as deux réussites.
Vas-y,
là,
vas-y. Hein, t'es... Qui tout double, c'est ça ?
C'est qui tout double. Celle qui a rédigé une lettre manuscrite le plus récemment.
Ah, ça, c'est Love Letter, je dirais.
Ouais, et c'est un sans faute. Bravo, Dédé. Oh, le studio est en folie.
Voilà. Non, mais je peux m'inscrire au Proxy Quiz, alors.
Ah, bah écoute, t'as toutes les compétences.
Celui qui a aussi toutes les compétences pour, de par son savoir sur les jeux de société, c'est le Pionfesseur qui va nous analyser les points d'action.
Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Dans les jeux de société, on fait beaucoup de choses, on agit de plein de façons. Et puisqu'on agit, on appelle ça des actions. Il y a plein de mécaniques permettant de définir la manière de séquencer ces actions. Dans quel ordre on agit, quand est-ce qu'on fait notre choix, ou bien tout simplement quels sont les choix qui sont à notre disposition. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une manière bien spécifique de faire, la mécanique de points d'action. Alors, pour une fois, la définition est plutôt simple. Un jeu qui utilise des points d'action va vous donner régulièrement des points à répartir parmi plusieurs actions. Quand on dit régulièrement, c'est souvent tout simplement à chaque tour de jeu. La manière la plus simple de faire est de vous donner simplement un nombre d'actions à réaliser. L'exemple canonique, c'est sûrement Pandémie, où vous avez 4 actions que vous pouvez réaliser à chaque tour. Et comme souvent dans les jeux à points d'action, vous pouvez par défaut faire plusieurs fois la même action sans aucune limite. Quelques autres exemples en vrac, Cthulhu Death May Die, Android Netrunner ou encore Horror Arkham, et je parle du jeu de cartes évolutif, utilisent eux aussi exactement ce même système. J'en profite pour citer également les Rescapés de l'Atlantide, que vous connaissez peut-être sous sa réédition nommée The Island, qui est notable car c'est sûrement un des plus vieux jeux de société de l'époque moderne et relativement connu, qui a utilisé des points d'action. Ces jeux s'opposent donc aux jeux où l'on n'effectue qu'une seule action à son tour de jeu. L'avantage, c'est que cela permet de donner une certaine vitesse au jeu. Ça donne le sentiment de faire plusieurs choses, voire de faire des petits enchaînements, des petites combos satisfaisantes. L'inconvénient, c'est que ça rajoute du fameux downtime, c'est-à-dire du temps d'attente entre les tours des joueurs. D'autant plus que le jeu est généralement moins dynamique, puisqu'il faut bien calculer son enchaînement d'actions. Mais si tout cela représente la manière la plus simple et basique d'implémenter un système de points d'action dans un jeu, observons maintenant les différentes variantes de cette mécanique. Déjà, il y a ces jeux où les actions ont un coût différent. C'est d'ailleurs là que le terme « point d'action » prend vraiment tout son sens. On retrouve ça dans Tikal ou encore Torres. Cela permet aux auteurs d'affiner leur équilibrage en donnant de la puissance à certaines actions, moyennant un coût en point d'action plus élevé. Mais bon, ça rajoute encore une couche de calculatoire et de downtime à une mécanique qui a déjà ça comme gros inconvénient. Autre variante, c'est d'avoir effectivement un pool de points d'action à dépenser dans le tour, avec des actions à prix différents, mais où l'on effectue quand même une action chacun à son tour, si bien que certaines personnes auront terminé leur tour avant les autres, si elles choisissent les actions les plus chères. On retrouve ça par exemple dans Expedition Northwest Passage, et l'avantage de cette mécanique, c'est qu'on garde l'équilibre des actions à coûts différents, tout en réduisant le sentiment de downtime, puisqu'on joue tout de même chacun à notre tour. Ça permet aussi une interaction plus forte, puisqu'entre deux de nos actions, les adversaires jouent et peuvent potentiellement changer la configuration de la partie. Variante suivante, on a les jeux où l'on doit forcément choisir des actions différentes, comme dans Takenoko ou bien Feudum. Bon, là c'est généralement juste une question d'équilibrage, on cherche simplement à inciter les joueurs à ne pas bourriner une seule action, sinon ça casserait tout le jeu. Manière de faire suivante, on a les jeux où l'on a des types de points d'action différents, comme c'est le cas de Through the Ages. C'est un peu à mi-chemin entre la version qui nous autorise à faire plusieurs fois la même action et celle qui nous interdit de le faire. Ici, on laisse une forme de flexibilité aux joueurs, mais avec une certaine limite puisqu'on les force à dépenser une partie de leurs points d'action dans un domaine et une autre partie dans un autre. Et enfin, on peut observer un dernier jeu qui, il me semble, est assez unique en son genre, c'est Starship Samurai, qui lui vous donne des jetons numérotés avec des valeurs qui représentent donc votre pool de points d'action en début de manche. et vous devez dépenser à votre tour un de ces jetons et faire une seule action, mais autant de fois que la valeur du jeton. Vous pouvez par exemple dépenser votre jeton 3 pour faire 3 fois l'action de mouvement. Encore une fois, c'est une petite contrainte pour vous empêcher de répartir vos points d'action de manière 100% libre. Mais ici, ça va du coup créer des tempos différents entre les tours des joueurs. Certains voulant peut-être agir très longuement ou faire une très grosse action en début de manche pour se dépêcher de faire quelque chose avant les autres, tandis que d'autres conserveront cette petite accélération pour plus tard. En plus de ça, ça enlève un peu de liberté puisqu'on est obligé de faire plusieurs fois la même action quand on utilise des gros chiffres. Voilà, il est temps de conclure. Les jeux à points d'action sont des jeux qui vous proposent de répartir des points pour effectuer différentes actions durant votre tour. Parfois vous serez parfaitement libre, parfois certaines contraintes vont vous empêcher de choisir les mêmes actions durant votre tour. Certains de ces jeux vous proposent des actions ayant des coûts différents. Certains autres vont même faire jouer tout de même les joueurs chacun à leur tour, en les faisant dépenser leurs points d'action qu'ils ont pour toute la manche en cours. Si c'est une manière simple pour les auteurs de contrôler la vitesse de déroulement de jeu, ils doivent bien garder en tête que plus l'on donne de points d'action lors d'un tour de jeu, plus le jeu aura du downtime et risque de devenir calculatoire. On a bien vu en tout cas que c'était une mécanique très modulaire, et on peut donc s'attendre à ce qu'elle soit encore modifiée à l'avenir. Et vous, connaissez-vous d'autres jeux particuliers utilisant des mécaniques de points d'action? Lesquels sont vos préférés et pourquoi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien!
Merci Pionfesseur pour cette analyse. Alors les points d'action... je pensais que c'était un peu vieillou, moi, les points d'action, parce que ça rend le tour vachement long quand quelqu'un doit faire trois actions. Non, tu trouves pas que ça se perd un peu?
C'est vrai que le downtime, comme nous l'a rappelé le Pionfesseur, c'est quelque chose qui peut vite s'avérer insupportable. D'ailleurs, j'en avais parlé un peu dans la manière de bien se tenir à table, le fait de jouer rapidement. Mais bon, quand tu as 10 points d'action à faire, bah, tu as beau être rapide, ouais, c'est sûr que ça prend du temps. Et c'est vrai qu'on est plus à l'époque des jeux en simultané, où, comme il nous l'expliquait dans sa chronique, le fait d'avoir effectivement plein d'actions à faire à son tour, mais on les fait à tour de rôle, chacun une action, jusqu'à ce qu'il y en n'est plus, sachant que les actions peuvent avoir un coût plus ou moins important. Quoi. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas très bien vu d'avoir trop d'attentes dans un jeu.
Oui, de nos jours, les gens ne veulent plus attendre. Faut que ça aille vite. On écoute les podcasts en x2.
Il n'y a qu'à voir les caisses au supermarché. Hein. Quand la caisse d'à côté, elle avance plus vite que la tienne et tout ça. Dans quel état ça nous met? Alors que tu commences à équidistance de l'hôtesse de caisse ou de l'hôte de caisse, et puis tu vois que la personne qui était au même niveau que toi, eh ben, elle est déjà en train de déballer ses courses, que toi, tu es encore derrière. Quoi.
Mais faut pas changer forcément de caisse. Mais il faut bien choisir sa caisse. Il faut regarder les gens qui sont devant toi. Est-ce qu'ils ont l'air aussi pressés que toi?
Ouais, et puis la quantité d'articles dans les paniers, et puis comment la caissière ou le caissier, il est réactif, quoi. Tu vois, ouais. Il y a plein de choses.
Surtout quand tu avances, quand tu patientes 20 minutes et qu'il dit « Ah non, changement de caisse, là, je pars en pause. »
Ouais, ou alors j'ai plus de papier dans ma machine, où il faut que je fasse de la monnaie. Non, mais c'est infernal. Après, quand tu as tes habitudes dans ton supermarché, tu sais repérer les gens. Hein. Tu te dis, oh non, pas celle-là, la dernière fois, elle avait changé son rouleau de carte bleue au moment où je passais. Elle a mis 3 heures à retrouver plus son... Bon, alors, les points d'action. Les points d'action... Moi, ça m'a fait penser...
Je pensais qu'on était, après le comité de soutien aux ABF, on était le comité de soutien aux gens qui font la queue au supermarché.
Ouais, et puis à mon avis, les gens qui sont à la caisse, ils doivent en voir des vertes et des pas mûres, avec des gens aussi impatients que nous. Ça ne doit pas être facile tous les jours.
Non, moi ça va, je suis tellement impatient que je ne fais même plus les courses. J'utilise le drive pour faire mes courses de nuit. Voilà, et hop, je clique et après je les récupère le lendemain. J'ai plus le temps, on n'a plus le temps d'aller passer une heure au supermarché.
Ouais, mais tu te trompes pas, toi, dans les contenances quand tu fais en ligne? Tu commandes toujours la même chose. Moi, à chaque fois que je veux commander un truc nouveau, je me trompe dans les contenances. Quoi.
Ouais, oui, c'est vrai que des fois, tu te retrouves avec des bouteilles de lait d'un demi-litre, là, tu te dis, ouais, ah, c'est pour ça qu'il était pas cher.
Ouais, c'est ça. Ou alors 1 kilo de fromage râpé, bon, bah, super. Sur la photo, sur le site internet, il avait l'air plus petit. Bon, les points d'action. Moi, ça m'a fait penser à une époque, j'ai beaucoup joué à un jeu en ligne qui s'appelle Dofus.
Et, oui, je vois.
Non, ça t'intéresse ou pas?
Oui. Non, mais j'ai joué un peu à Dofus.
T'as joué à Dofus?
Je me suis arrêté à la zone où c'était gratuite. Après, j'ai pas osé aller plus loin.
Ok. Bon, bah, moi, j'ai joué beaucoup trop. Et dans les moments de combat, tu avais des points d'action à dépenser en fonction des sorts que tu lançais et tout ça. Et tu sais que le Dofus, ce sont des œufs de dragon.
Oui,
et que dans le jeu, ils sont assez difficiles à trouver. Et moi, j'avais fait une quête qui s'appelait l'Éternelle Moisson, qui était confiée par Otomai, je dis ça pour les initiés. Et il fallait capturer tous les archimonstres de l'île, de l'univers, enfin du monde. Et les archimons, c'était des monstres habituels, mais avec des noms particuliers. Je pense que j'ai mis plusieurs mois à capturer tous les archimonstres du jeu. À mon avis, il y en avait plus d'une centaine et ils n'étaient pas tous faciles à trouver. Et quand tu avais tous les archimonstres, tu obtenais le Dofus Ocre qui te donnait un PA supplémentaire. Et c'était hyper puissant. Ça n'a pas l'air comme ça, mais les sachants savent. C'était quand même hyper stylé. Et une fois que j'ai eu le Dofus Ocre, j'ai arrêté de jouer. Donc, j'en ai même pas profité.
Mais peut-être tu peux te reconnecter et voir si tu as toujours ton point d'action en plus.
Ah, mais c'était il y a plus de 15 ans. C'était il y a plus de 15 ans. Je sais pas si ça marche encore. Team PA.
Ouais, à l'époque, on était jeunes. On était des joueurs qui commençons à jouer. Oui. Encore des tout jeunes joueurs.
Tout à fait.
Comme les enfants de Cyrus dans la chronique Joueur Né, qu'on va écouter tout de suite.
C'est trop bon les bonbons. Moi je préfère les gâteaux.
Non, moi le chocolat.
Coucou, je suis rentrée.
Ah, vite, cachons-nous. Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs, c'est Cyrus, bienvenue dans Joueur Né, la chronique qui vous parle de jeux pour les enfants de 3 à 7 ans. Aujourd'hui, nous allons tenter de chaparder de la nourriture à un jardinier qui n'a rien demandé dans 1, 2, 3, Faufile-toi. 1, 2, 3, Faufile-toi est un jeu d'Anthony Perron et Fabrice Chazal. Il est édité chez Ravensburger et illustré par Jiaoui Evagaou. Le jeu est recommandé à partir de 6 ans pour 2 à 5 joueurs et joueuses nés et l'éditeur annonce des parties de 25 minutes. Le jeu est fabriqué en République tchèque, il est vendu au prix de 28,90€ à la Caverne du Gobelin. 1, 2, 3, Faufile-toi est un jeu compétitif.
Ah bah ça change un peu!
Et oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé d'un jeu compétitif. Dans 1, 2, 3, Faufile-toi, les joueurs et joueuses nés vont tour à tour incarner le jardinier d'une maison qui tente de protéger son jardin d'un groupe de ratons laveurs chapardeurs. Avant de démarrer la partie, il sera nécessaire d'installer un matériel assez imposant. Un jardin avec divers agréments de jardin en 3D, tels que des arbres, des arbustes, des palissades ou encore une fontaine.
Et un poulailler!
Oui, en effet, il y a un poulailler. C'est le top pour avoir des œufs frais et faire des bons gâteaux.
Miam miam!
On va également installer une maison qui exploite la boîte du jeu sur laquelle on va fixer une structure en 3D assez imposante, elle aussi, qui figurera la façade de la maison percée d'une fenêtre par laquelle le joueur jardinier va pouvoir observer son jardin en soulevant le rideau astucieusement remplacé par une feuille cartonnée. Alors, comment ça se passe? Le joueur ou la joueuse qui incarne le jardinier va se mettre derrière la maison, rideau fermé, et ne verra donc pas ce qui se passe dans le jardin. Il va alors énoncer le titre du jeu.
1, 2, 3, faufile-toi!
Pendant ce temps, les joueurs et joueuses ratons vont rapidement placer le pion raton laveur à leur couleur derrière un des décors du jardin. À la fin de l'énoncé, le jardinier ouvre la fenêtre et regarde le jardin à la recherche du moindre indice pouvant le guider sur la piste des ratons chapardeurs.
Où êtes-vous les ratons laveurs? Je vais vous trouver!
Le jardinier va alors devoir choisir un et un seul élément de décor qu'on va soulever pour voir si un raton laveur s'y est caché. Chose importante, les ratons laveurs cachés derrière certains décors doivent obligatoirement faire mine de manger et doivent donc grignoter. Et ça, c'est quand même un gros indice. Mais pourquoi donc se cacher derrière de tels décors? Eh bien, pour les points, tout simplement. Un raton qui grignote sans se faire prendre gagne un point. Le jardinier, quant à lui, gagne un point par raton laveur caché derrière l'élément de décor inspecté. La manche prend fin dès que quelqu'un a remporté 5 points, qu'il ou elle soit jardinier ou raton laveur. Une autre option pour mettre fin à la manche, c'est qu'un raton laveur parvienne tout au bout du jardin où se trouve le Graal de tout bon raton laveur qui se respecte, à savoir la poubelle, synonyme de 3 points tout de même. Ensuite, on change de jardinier et on continue ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ou une joueuse atteigne un certain nombre de points fonction du nombre de participants. 1, 2, 3, faufile-toi est donc un jeu qui fait évidemment penser à ce jeu de cours de récréation qui est 1, 2, 3, soleil. Mais d'ailleurs, saviez-vous que chez nos voisins allemands, 1, 2, 3, soleil se dit Ein, zwei, drei, hors Samberg, ce qui signifie 1, 2, 3, bœuf sur la montagne.
Bah, ça veut rien dire.
Bah, 1, 2, 3, soleil non plus. Si le jeu reprend le gimmick de ce jeu d'enfant traditionnel, il n'en est pas vraiment la version jeu de société. 1, 2, 3, faufile-toi serait plutôt un mélange entre cache-cache et 1, 2, 3, soleil. Il est même sans doute plus proche de cache-cache, puisqu'on cherche à cacher son personnage à la vue d'un joueur, mais qu'on peut soi-même bouger. C'est même obligatoire quand on se cache derrière une cachette remplie de nourriture, et qu'on doit en effet faire semblant de grignoter. En fait, 1, 2, 3, faufile-toi est bien plus proche dans son concept d'un Scotland Yard pour enfants. En tant que raton laveur, on va en effet chercher à se déplacer de manière cachée, si possible, de façon à berner le jardinier, tout en essayant de glaner des points. Cela conduit rapidement nos ratons ou joueurs nés à user de bluff et de contre-bluff. Et ça, c'est assez bluffant. On est en effet bien surpris par les coups tordus des enfants qui sont bien fiers d'eux lorsqu'ils font tourner le jardinier en bourrique, surtout si c'est un de leurs parents. Du côté du jardinier, le sentiment de jeu est différent. On cherche à établir le parcours possible des ratons laveurs par l'alternance des tours avec et sans grignotage. Car je ne vous l'ai pas encore dit, mais il y a une sorte de parcours. En effet, depuis un emplacement donné, on ne peut pas se rendre n'importe où. On doit suivre les allées qui partent d'une cachette pour aller vers d'autres cachettes. Mais du coup, si c'est un genre de Scotland Yard pour enfants, quel intérêt puisqu'il existe déjà un Scotland Yard Junior ?
Ouah, je trouve pas que ça ressemble à Scotland Yard !
Eh oui ! Il y a pas mal d'ingrédients qui s'invitent dans 1, 2, 3, faufile-toi, qui l'éloignent de Scotland Yard. Déjà, le paradigme de l'asymétrie est inversé.
Le para quoi ?
Le paradigme, en fait, c'est la façon de voir les choses, ma petite louve. Je sais pas, par exemple, étant donné ta taille, quand tu regardes la table, tu vois les choses sous un certain angle. Moi qui suis plus grand, je vois la table dessus, je vois les choses d'une autre façon. C'est ça, le paradigme. Et dans 1, 2, 3, faufile-toi, on pourrait dire que la symétrie est gérée à l'envers par rapport à Scotland Yard. Dans 1, 2, 3, faufile-toi, c'est comme s'il y avait plusieurs Mr. X et un seul enquêteur. Rien que ça, ça change des choses. Il y a plusieurs parcours à évaluer, et le jeu peut se permettre de proposer une déduction plus simple avec des parcours plus évidents, puisque trouver un raton n'est pas synonyme de sa défaite, mais juste d'un point pour le jardinier. Dans 1, 2, 3, faufile-toi, il y a également une notion de rapidité. On a juste le temps de l'énoncé du titre du jeu pour faire son choix et déplacer son raton laveur. Bon, en réalité, on peut réfléchir à où se placer avant l'énoncé, mais il faut quand même être rapide pour déplacer son raton. Et cela crée des situations intéressantes. La précipitation amène parfois à mal se cacher, ou encore à faire bouger des éléments de décor qui peuvent devenir des indices pour le jardinier, ou des fausses pistes. Il n'est pas rare qu'un élément de décor tombe carrément, et ce n'est pas pour autant que le jardinier choisira de relever celui-ci pour y débusquer un raton laveur. On va également parfois se percuter, tenter de se mettre derrière la même cachette, et peut-être être tenté du coup de changer d'avis. Le jeu a également une propension à générer une grande excitation autour de la table. Rien que l'idée de débusquer ses petits camarades ou de berner le jardinier crée une envie de jouer chez les enfants. Petit avantage à la maison au rôle du jardinier qui remporte souvent les faveurs de mes petits loups. Alors, qui fait le jardinier en premier ?
Moi, 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 moi !
Le jeu propose également tout un tas d'éléments de mise en scène captivants. L'idée du grignotage vient inciter nos joueurs et joueuses nées à l'espièglerie. Le lever de rideau est sans doute le point d'orgue du jeu. C'est lui qui rappelle 1, 2, 3 soleil, avec ce moment où le joueur, face au mur, se retourne pour tenter de capturer le mouvement d'un joueur ou d'une joueuse. Enfin, ce moment de suspense pendant lequel le jardinier réfléchit à quel élément de décor soulever est un instant palpitant pour les ratons laveurs. Tous ces petits ingrédients génèrent des moments forts dans le jeu qui viennent captiver nos joueurs et joueuses nées. La phase d'échange des rôles est un moment salvateur qui vient faire redescendre la tension qui règne autour de la table et qui est parfois l'occasion de promesses de vengeance à la table, tout cela dans le respect du jeu bien sûr. Bref, Dans un jeu qui ne paie pourtant pas de mine, et qu'on pourrait être tenté de vite résumer, il y a une foule d'ingrédients minutieusement choisis pour créer un grand plaisir de jeu chez les enfants. Je pourrais ainsi sûrement en parler encore un moment. Par exemple, je vous ai pas encore dit que le moment où le jardinier regarde son jardin en réfléchissant au décor qu'il va fouiller s'apparente parfois au jeu des 7 différences, où l'on va glaner des indices dans le potentiel mouvement de certains décors. Quelques mises en garde tout de même avant de partir vers la conclusion de cette chronique. Concernant la mise en place du matériel, je recommande qu'elle soit supervisée par un adulte. Le montage de la maison en particulier s'avère délicat, et même si Ravensburger a prévu une feuille cartonnée de rechange pour le rideau, je suis sûr que vous préférerez ne pas avoir à utiliser le rideau de rechange dès votre première partie. La piste de score, sur laquelle on assemble les marqueurs de score des joueurs et joueuses à la façon d'un puzzle, fait crisser des dents quand on voit les enfants la manipuler et forcer pour séparer les pièces les unes des autres. Donc là aussi, gare au matériel. Autre remarque, le jeu demande pas mal de place sur la table et la disposition idéale n'est pas évidente à trouver pour que les personnes dotées des plus petits bras puissent tout de même atteindre toutes les cachettes du jeu. Enfin, le jeu est indiqué jouable de 2 à 5 joueurs et joueuses. De mon côté, je vous recommanderais surtout d'y jouer à 4 ou 5. À 2 et à 3, clairement, on perd une partie du fun et le jardinier n'est plus confronté à ce sentiment de dispersion des ratons laveurs. Les sensations d'un Scotland Yard sont plus présentes. À 5, il faudra cependant veiller à ce que le joueur ou la joueuse la moins tête en l'air s'empare de la couleur grise qui n'a pas de pion attitré. En effet, cette personne devra changer de couleur en empruntant le raton à la couleur de celui ou celle qui prendra le rôle du jardinier. Si je salue l'idée d'économiser du matériel, je ne peux m'empêcher de trouver cela surprenant dans un jeu pour enfants. 1, 2, 3, Faufile-toi est donc une adaptation réussie d'un mash-up de ces deux jeux de cours de récréation que sont Cache-Cache et 1, 2, 3, Soleil. Le jeu a tout de suite fait mouche à la maison, et j'ai rarement vu mes enfants prendre autant de plaisir à jouer et être à ce point à fond dans la partie. Chaque choix de game design semble avoir été mûrement réfléchi pour bâtir un jeu qui semble pourtant évident dans son principe. Après le chemin de la maison, l'année 2024 démarre de façon bien plus intéressante que l'année 2023 en ce qui concerne les jeux pour enfants. Et mon petit doigt me dit que ce n'est pas fini. Alors restez à l'écoute de Jouarnet, que vous retrouverez dès le mois prochain avec un nouveau jeu à l'honneur. En attendant, jouez bien, surtout avec vos enfants.
Merci Cyrus pour cette chronique. Alors, on va voler de la nourriture aux fermiers. Sacré petit raton laveur.
Oui, alors je ne sais pas si je cautionne ça, moi. Faire jouer des petits voleurs aux enfants. À voir.
Mais c'est des ratons laveurs, alors ça passe.
Oui, c'est dans leur nature, c'est ça, d'aller chiper
c'est
la
ça.
Nourriture.
Bon, bah, j'ai c'est essayé de trouver. C'est plus pratique que de les cueillir dans les arbres. Tu vois.
C'est vrai. Et puis dans les poubelles, on trouve des choses drôlement plus variées que dans la forêt. Hein. Il y a plus de diversité. Il y a de la diversité alimentaire. Bon, j'ai essayé de trouver des fun facts sur les ratons laveurs, mais finalement, ils ne sont pas si intéressants que ça.
Mais en fait, je pensais que, qu'il n'y en avait pas en Europe. Que c'était, c'est surtout. Aux États-Unis, mais en fait j'ai appris dernièrement qu'il y en avait quand même un peu en Europe, mais c'est, ils ne sont pas aussi, aussi répandus que, qu'en Amérique du Nord.
Ah bah, je suis un peu jalouse toi parce que tu as trouvé un fun fact toi. En tous les cas là on ouvre un nouveau chapitre après les jeux à jouer, tu sais, au fond de la classe quand on est dans un cours un peu soporifique, et ben maintenant on a les jeux qui sont dérivés des jeux de la cour de récré. Tu vois, parce que là, on a un mix entre cache-cache, 1, 2, 3, soleil. On va alimenter notre wiki, ça va être quelque chose.
Bah oui, voilà, jouer à 1, 2, 3, soleil ou 1, 2, 3, bœuf sur la montagne, c'est ça, en allemand.
Oui, c'est ça. Ouais, c'était le moment carambolage de la chronique de Cyrus. Parce qu'il y a eu la petite musique, là, je me dis, mais je connais cette musique. Et voilà, c'était ouais, le moment Arte. C'est pour ça, bon, tout à l'heure, j'étais un peu titillée sur comment on disait aiguille en allemand. Ah, tu vois, j'essayais de faire un peu une continuité, un fil rouge, les chroniques qui se répondent.
Bah, de toute façon, carambolage, moi, j'étais fan, même si des fois, quand t'es en Alsace, tu n'apprends rien. Tu vois, tu dis, ah, ça, c'est une. Des fois, ils disent, ah, ça, c'est une tradition qu'ils font qu'en Allemagne. Tu dis, ah, mais on fait ça aussi, nous, en Alsace. Ou des objets qu'on a que. qu'en Allemagne qu'on connaît pas en France. Et je dis, bah si, moi j'ai ça aussi.
Mais tu devais être super fort au jeu de l'énigme. Là, il y avait toujours une énigme à savoir si ça se passait en Allemagne ou en France.
Ouais, ouais,
ou alors au contraire, tu étais super mauvais parce que pour toi, l'Allemagne, c'était la France.
Non, non, mais ça tu te remarques facile. Et oui, quand tu, des fois, tu fallait trouver une enseigne au fond qui était une enseigne typique allemande. Et ouais, quand tu vas des fois en Allemagne, tu les repères si c'est une grosse enseigne, genre les DM, tu les remarques facilement, quoi.
Et par chez toi, vous avez aussi les bons hommes verts et rouges avec des chapeaux pour traverser ou pas la rue?
Non, ils n'ont pas de chapeau. Ils n'ont pas de chapeau chez nous. Ils restent assez français et meeple-esque.
Oui, c'est ça. Bon, pour revenir à la chronique de Jo-Arne, 1, 2, 3, faufile-toi, c'est... un exemplaire, encore un exemplaire de jeu pour enfants dans lequel il y a une maison comme matériel. Parce que cette année, on avait eu le Max le chat, où il y avait... Oui. Alors, ce n'était pas vraiment une maison, c'était un arbre qui servait un peu de maison à l'écureuil. Mais je pense à la maison des souris, par exemple, où tu as déjà une maison qui est représentée. Tu as les Smart Games avec les trois petits cochons ou le petit chaperon rouge, dans lesquels il y a des petites maisons aussi en plastique qui font que quand tu as fini de jouer au jeu de société, tu peux jouer avec tes personnages et les faire rentrer dans la maison. Et puis, il me semble qu'il y a eu aussi cette saison le chemin de la maison avec l'écureuil et la programmation. Tu te souviens de cet épisode?
Avec l'écureuil cacahuète ou noisette, ou je ne sais plus.
Ah oui, c'est ça. Voilà, du coup, on ne sait pas son nom. Avec... Ah, c'est malin, tiens. Bon, tous les cas, la maison, c'est un peu le zombie ou le viking des jeux adultes, tu sais, où tu as toutes les thématiques sur les mêmes... J'ai l'impression que chez les enfants, c'est la maison.
Et pourtant, on pourrait se dire que pour les enfants, il faudrait des thèmes qui les fassent rêver, pas forcément des trucs qu'ils connaissent de la maison. C'est peut-être plus rassurant de jouer dans la maison, avec le thème de la maison.
Après, les ratons laveurs, je suis pas sûre qu'ils en voient beaucoup. Hein. Enfin, même s'il y en a un peu en Europe, on a compris.
on n'en voit pas beaucoup, mais ils sont assez stylés avec leur masque. On a l'impression qu'ils ont un masque de...
C'est ça, ils sont incognito, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on ne les voit
ils
pas.
Ils sont camouflés. Mais c'est très graphique comme animal. On peut vite le représenter... En deux coups de crayon, tu dessines hop, le masque et on arrive tout de suite à repérer que c'est un raton laveur.
À quand le jeu Super Raton Laveur? Bon, là, on a cité tous les jeux de la saison. Là, c'est bon, bon, on a tout coché.
Okay, en parlant de tous les jeux de la saison, Elodie va nous parler aussi de plusieurs jeux et pas forcément d'une illustratrice ou d'un illustrateur ce coup-ci. On va l'écouter tout de suite.
Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Dessine-moi un plateau. Pour ce dernier épisode de la saison, je ne vais pas revenir sur le travail d'une illustratrice ou d'un illustrateur. Je vous propose de vous amener avec moi pour butiner quelques jeux découverts lors du week-end proxy jeu. Parce qu'en plus de jouer, de beaucoup jouer, on a aussi refait le monde ludique, discouru sur les mécaniques, ce qui marche moins, et aussi parlé des illustrations. Allez, attachez votre ceinture, c'est parti pour la balade qui va nous amener en Sibérie, en passant par le Donjon Rouge, le tout en mangeant des strudels. Premier arrêt à Vienne, au Grand Austria Hotel, jeu de 2015 créé par Virginio Gigli et Simone Luciani, illustré par Clemens Franz, à qui on doit entre autres Agricola, Bonanza et Orléans. Vous le savez, j'aime bien les easter eggs, ces petits clins d'œil que l'illustrateur ou l'illustratrice va faire aux joueurs et joueuses attentifs. Au moment de la mise en place, quand on reçoit les personnages que l'on va pouvoir recruter au cours du jeu, je me suis retrouvée avec le détective. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir le poser sur la table pour dire à Lana « Eh, t'as vu, c'est Benedict Cumberbatch de la série Sherlock ». Je trouve délicieux ces moments de connivence où on partage des références culturelles communes, où on se sent appartenir à la grande famille des geeks. Je vous mets évidemment la carte dans le billet, Il paraît aussi que les auteurs du jeu sont représentés parmi les invités, mais comme je ne connaissais pas leur visage, je ne les ai pas reconnus pendant le jeu. Je vous laisse donc les chercher. Voilà, c'est tout pour Grand Austria Hotel, c'était juste un petit clin d'œil. Je reviendrai peut-être un jour sur le travail de Clemens Franz qui m'intrigue. On dirait vraiment qu'il a complètement changé de style ces dernières années et ça me donne envie de me pencher là-dessus. Voulez-vous prendre un autre thé, très chers amis? Car c'est à la table du Chapelier Fou que nous allons nous rendre maintenant. Et vous allez voir, cette chronique va être aussi décousue et parcellaire qu'Alice au Pays des Merveilles. Un peu comme des flashs de souvenirs. J'en étais donc au thé. Du thé, du thé, du thé, du thé, très cher. Attablons-nous devant Wonderland's War, un jeu de Tim Esner, Ben Esner et Yann Moss, illustré par Manny Tremblay, à qui l'on doit aussi Dice Throne et Radlands. Voilà un jeu qui me faisait de l'œil. Sa direction artistique atypique me donnait vraiment envie de m'y intéresser. Merci à toi, Suveil, de m'avoir permis d'y jouer. Je n'ai pas été déçu du voyage. Alors, à quoi il ressemble ce jeu? D'abord la couverture. On y voit la tête du chat du Cheshire, sur fond noir, piqueté de blanc, comme un gros ballon qui volerait dans un ciel étoilé. Cette tête est comme auréolée de rose et violet fluo. Les couleurs sont les mêmes que le chat du Cheshire du film de Walt Disney, violet et rose, avec les yeux jaunes. Mais ici, rien de la bonhomie de celui de 1951. Les canines sont aussi acérées que celles d'un vampire et les orbites vides brûlent d'un feu intérieur. Il est clairement plus du côté inquiétant des illustrations originales de John Tenniel que je vous mets dans le billet. Le plateau maintenant. Déjà, il est énorme. Il faut une sacrée table pour jouer à ce jeu. Genre une table de la taille d'une montgolfière, si vous voyez ce que je veux dire. Comme la couverture, il est plein de contrastes. Couleur néon sur fond violet foncé. Une grande table tient le tiers de la place. C'est là que nous prendrons le thé 3 fois durant la partie, ce qui nous permettra de nous préparer aux combats qui se dérouleront dans les différents lieux disposés autour de cette table. Lieux qui sont tirés des 2 livres de Lewis Carroll. Les dessins sont tourmentés, étranges et dérangeants. Des ombres émergent des arbres, les fleurs ont l'air carnassières. Bref, on sent qu'on risque d'y passer un mauvais quart d'heure. J'aime beaucoup la façon dont le jeu a extrait la partie la plus sombre de l'œuvre de Lewis Carroll et de ses diverses adaptations. En faisant des personnages des combattants, il lorne plus du côté du film de Tim Burton que du côté de l'œuvre originale. En opérant une sorte de syncrétisme, soit un mélange d'influences diverses, Manny Tremblay crée une œuvre à la fois complètement originale et personnelle, tout en étant vraiment familière. Passons maintenant au dernier jeu. Il s'agit de Kremlin, de Urs Hostetter, illustré par Rhys Brandberger, Clay Gardner, Rasejina Yami, Charles Kibler et Under Plana. Difficile de savoir qui a fait quoi dans l'équipe. Si vous avez écouté le T'as joué à quoi spécial Weekend Proxy Jeu, vous savez déjà tout le bien que je pense de ce jeu et avez entendu le compte-rendu de la partie épique que nous avons vécue. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le plateau. Pas de flonflon ici, c'est austère. Un fond rouge pompier, évidemment, on est sous l'ère communiste. Des rectangles de couleurs vives par-dessus pour savoir où placer les personnages. Toutes les étapes du jeu sont écrites à même le plateau. Il y a des textes en police minuscule partout et les codes couleurs dans tous les sens. Mais il nous dit quand même des choses sur le jeu, ce plateau. Notamment les 2 illustrations des cases de gauche et droite du bas. Celle de gauche représente 3 urnes funéraires et une couronne mortuaire. Il va y avoir des morts en grande pompe. À droite, 3 formes humaines indistinctes portent pelles et pioches sur lesquelles des stalactites de glace se sont formées. Certains vont aller faire un tour au goulag. Au-dessus se trouve l'organigramme du parti. Les bustes sont bien dessinés dans des rectangles, agrémentés de détails suivant le poste. En revanche, pas de tête, juste une vague silhouette. Seul le poste est important, la tête qu'il occupe est complètement interchangeable et de toute façon, elles vont valser ces têtes. Passons aux cartes maintenant. Elles comportent l'âge, le nom des protagonistes en alphabet latin et cyrillique, ainsi que leur tête. Que dire de ces visages? Ils sont distordus, comme s'ils avaient été faits en cire et que celle-ci avait un peu fondu. Les couleurs sont aussi très étranges. Certains ont des touches de vert dans leur peau, d'autres de bleu, le front gris et le reste du visage rose. Bref, c'est étrange et quelque peu intrigant. Ces illustrations m'ont fait penser aux œuvres de Francis Bacon et de Lucian Freud, qui faisaient tous les deux partie de l'École de Londres, groupe de peintres figuratifs qui revendiquaient une peinture réaliste, dépassant les apparences pour cerner la vérité des sujets. Je vous mets 2 de leurs œuvres dans le billet. Quelques mots de la couverture pour terminer. Elle reprend les codes couleurs des affiches de propagande russe du début du XXe siècle. Le noir, le blanc, le rouge. À cela s'ajoute le jaune pour le titre et pour la faucille et le marteau du drapeau soviétique. Le titre tient bien un tiers de l'image. Le R écrit à l'envers rappelle l'alphabet cyrillique. Il est écrit en diagonale, montrant clairement que le Kremlin est en train de se casser la gueule. Dans les affiches de propagande soviétique, c'est l'humain qui tient la plus grande place. Ici, ils sont tout petits, formant une pyramide un peu brouillonne, en noir et blanc, enchevêtrement de corps qui se battent pour atteindre le sommet. Le trait est aussi brouillon, fait de hachures et de crayonnés. Cela détonne devant ce qui est le point central de cette couverture, le Kremlin, tout en majesté qui tient les deux tiers de l'image. Le dessin est précis et soigné, élégant. Les politiques passent et se battent, lui reste. Vous pouvez admirer sa splendeur dans le billet, accompagné de quelques affiches de propagande. Voilà, c'en est terminé pour ce nouvel épisode. J'avoue que c'était très agréable de trouver l'inspiration grâce aux discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous. Cette chronique était la dernière de la saison. Je vous souhaite donc un très bel été rempli de belles choses. On se retrouve en septembre et d'ici là, jouez bien!
Merci Elodie pour cette chronique. Et alors, t'avais l'Easter Egg de Grand Austria Hotel, toi ?
Je savais par contre que quand ils ont sorti en KS l'extension Let's Vault de Grand Austria Hotel, il y avait la possibilité, quand tu pledgeais et que tu payais la contrepartie qui allait bien, d'avoir son visage dessiné sur une carte d'invité dessinée par Clemens Franz si tu payais le prix, quoi. Et c'était premier arrivé, premier servi.
Ah ben oui, ça veut dire pas mal, ça. Hein.
Ah ben ouais, c'est formidable.
Pour être immortalisé dans un jeu.
Ah ben trop bonne idée. Bon, c'était presque 200 euros, je crois, hein, pour acheter le jeu et avoir sa tête. Mais bon, moi je trouve que l'idée est sympa. Alors, elle exprimait le fait qu'elle avait eu du plaisir à reconnaître des visages sur les cartes de Grand Austria Hotel, parce qu'elle se sentait comme faisant partie de la grande famille des geeks. Alors, je me demandais, quand je l'écoutais, si toi aussi, Dédé, tu te sentais comme faisant partie de cette grande famille.
je ne sais pas, mais je pense que oui. Quand on voit ma ludothèque, on peut me traiter de geek.
Et alors, je me posais la question de quel était l'objet le plus geek que tu possédais.
Oh, ça c'est une bonne question. Quel est le tien, le temps que je réfléchisse à mon objet geek?
En fait, cette question, je l'ai entendue dans une interview de Alexandre Astier, et qui a répondu, enfin l'objet dont il a parlé, et ben j'ai exactement le même. Alors je vais copier Alexandre Astier. En fait, il a sorti son porte-clés et sur son porte-clés, il y avait une brique Lego. Tu sais, quand tu vas au Lego Store. Ouais. Ouais. Et il disait quand même que le Lego, c'était, dans la culture geek, c'était une pierre, une brique assez importante. Et quand il a dit ça, je dis, mais moi aussi, mon porte-clés, c'est une brique Lego.
Alors, voilà. Tu veux savoir quoi ? Moi, mon porte-clés, c'est un Dark Vador Lego.
Oh là là !
ça on rajoute encore une couche du geek Star Wars avec du geek Lego. Et,
ok, alors attends, contre Kems, mon deuxième porte-clés, c'est un personnage Lego aussi. Et c'est le Big Bird. Tu sais, c'est mon avatar d'oiseau jaune. Et tu sais d'où il vient, cet avatar ?
Oui, c'est dans la rue Sesame Street.
C'est ça, c'est dans Sesame Street. C'est le Big Bird de Sesame Street. Bon, voilà. Donc, tu allais dire autre chose, pardon.
Non, moi, j'ai pas d'autres porte-clés. Ah oui, fun fact. Par contre, c'est mon seul Lego que je possède, je pense.
Ok.
J'en ai eu en étant jeune, mais je ne suis pas succombé dans la folie des Lego. Donc de ce point-là, vu là, tu vois, je suis pas très geek.
Ok.
Bon. Je sais pas ce qui serait le plus geek de chez moi, peut-être. Je sais pas. J'ai Donjons et Dragons. Ça fait de moi un geek, ça.
Ah oui.
Un livre de Donjons et Dragons.
Oui, c'est pas mal.
Mais je pense que une ludothèque, une bonne ludothèque.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu un objet geek.
Donc tu n'es pas un Adolphe, c'est ça, un adulte, un affole. Un adulte fan of Lego.
Ah non, je n'en suis pas.
Moi, j'en ai un tout petit peu plus. Monter l'ego. Parce que en grandissant, t'as le pouvoir d'achat qui grandit en même temps. Enfin, si t'as la chance d'avoir un travail, t'as le pouvoir d'achat qui... Et donc, voilà, il y a une partie de mon salaire qui passe dans les Lego. Ah,
c'est un investissement, tu pourras les revendre plus tard.
Non, jamais. Never. Je crois pas. Je crois pas. Bon, donc, moi, je mets de côté ma lampe plante carnivore du monde de Mario, mes pancartes... du chaudron baveur, enfin voilà. Moi, je pense que j'ai beaucoup trop de jouets, d'objets à la con qui relèvent de la culture geek. J'aurais jamais dû poser cette question. En fait, la question elle était pour toi, elle n'était pas pour moi.
Non, mais j'ai... j'ai une petite statuette de Cthulhu. Moi, c'est un objet qui est assez geek et qui est
Easter
egg qui est caché parmi mes plantes vertes. La petite statuette sur une étagère, hop, et de plantes vertes et une petite statuette de Cthulhu.
Moi, je l'ai en peluche Cthulhu. Très mignonne, d'ailleurs. Bon, allez, on arrête. Alors, revenons à la chronique de Élodie. Elle parlait aussi du plateau de Wonderland's War dans l'univers d'Alice. Et elle disait que c'était très Tim Burtonesque. Et moi, ça m'avait pensé à un jeu vidéo auquel je jouais aussi... à l'époque de Dofus ou un peu avant, c'est American McGee's Alice. C'était un jeu que je jouais sur PC à l'époque qui était hyper dark avec une Alice qui était internée à la suite de la mort de ses parents, qui était toute traumatisée, qui retournait au pays des merveilles, mais un pays des merveilles vraiment qui était devenu le pays de l'enfer, quoi. Et elle avait une arme... dans les armes qu'elle a... Au début, elle commence avec un couteau, et puis au fur et à mesure, elle réussit à récupérer des armes, et à un moment donné, elle a un espèce de moulin à poivre. Et tout à l'heure, quand je pensais à ça et que je regardais un petit peu, j'essayais de replonger dans mes souvenirs, j'ai fait une recherche sur le jeu, et j'y suis tombée sur un commentaire qui disait « Alice au pays de la jouabilité merdique », parce qu'en fait, c'était un jeu qui était hyper dur. Et va viser avec un moulin à poivre les monstres qui foncent sur toi. Bon, ouais, bref, c'était un jeu hyper dur. Si vous y avez joué aussi, dites-le nous en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir que je ne suis pas la seule à avoir souffert sur ce jeu.
Et elle a aussi parlé de Kremlin, le jeu dont elle a dit beaucoup de bien. T'as joué à quoi au week-end Proxyjo?
Ouais, on vous invite à l'écouter. Ça avait l'air d'être une partie assez épique qui a duré plusieurs heures, si j'ai bien tout compris.
Bah dans l'ambiance Kremlin, il y a du Dual Power Revolution.
Ah, je ne connais pas.
Là, c'est un jeu à deux joueurs où tu rejoues aussi la révolution russe. Faut aimer le thème, quoi. Voilà, mais tu peux jouer Lénine et tout ça. Et puis après, il y a Trotsky voilà, qui arrive. C'est aussi un jeu de capture de territoire et de ça, dans ce genre-là. Quoi.
Et est-ce que tu finis momifié sur la place rouge ou...
Non, tu finis plus souvent mort que, que chef du parti.
Okay.
Et sans transition avec le Kremlin, on va écouter Zéphiriel qui nous parle de Temple God.
Bonjour à vous, mes chers PJ joueuses et mes chers PJ joueurs. C'est Zéphiriel, et vous êtes dans votre chronique d'onanisme ludique mensuel, Soliloque. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien pris soin de vous le mois dernier. Tout d'abord, un petit mea culpa. Je rends cette chronique en retard lorsque Mad et Dédé Schulz ont déjà enregistré les chroniques, et donc j'ai eu le droit à un petit temps de latence. Donc au moment où vous écoutez cette chronique, ils n'ont pas écouté eux-mêmes cette chronique et ils ont déjà enregistré l'émission, donc merci à eux pour leur patience. J'espère que ça n'arrivera plus, ou... Je sais que ça n'arrivera plus. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas de un, mais de deux jeux pour essayer de me faire pardonner. On va commencer avec un jeu de société, un jeu de plateau. Un jeu de plateau, comme dirait l'autre. Ce jeu est sorti en 2024, il est tout chaud, tout frais, sur les étals. C'est un jeu de déduction, vous allez vite deviner les choses. Il n'est pas encore noté sur BG, ou dans le cas, il n'a pas encore assez de notes pour avoir une note générale. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes environ, pour 8 ans et plus. Il est édité par Banquise Édition en France. À l'illustration, on retrouve Jibs, et en créateur, on retrouve Yuan Levé, Je vous parle bien sûr de Temple Code. Alors, c'était un peu évident que ce jeu allait sortir dans un soliloque, et mieux vaut le faire tout de suite, parce que de toute façon, c'est un très bon jeu. Je ne vais pas vous le cacher, moi j'adore ce jeu. Temple Code, c'est quoi ? Dans Temple Code, les joueurs vont incarner des aventuriers archéologues. Ils sont à la recherche d'un trésor inestimable caché à l'intérieur d'un temple sacré. Pour y accéder, il va alors falloir trouver les combinaisons de statuettes permettant d'activer les mécanismes d'ouverture de la salle de trésor. Bon, vous pouvez essayer d'imaginer Indiana Jones en train de remplacer une statuette par un sac de sable si vous voulez. Clairement, c'est pas ce que vous allez faire ici. Ici, vous allez juste deviner des codes de couleur. L'enrobage est très joli, mais clairement, nous avons affaire à un mastermind un peu amélioré. Alors amélioré parce que lorsqu'il se joue à plusieurs, vous allez deviner plus rapidement que les autres et toutes les informations à part les vôtres, bien sûr, sont ouvertes. Vous connaissez le code des adversaires qui doivent deviner, et vous savez comment essayer de les distancer un tout petit peu en leur laissant les cartes qui vont mal. Bon, bref, c'est pas une chronique multijoueur qu'on fait ici, c'est un soliloque. Comment se joue le jeu et comment se joue le mode solo ? Dans Temple Code, déjà, vous allez avoir effectivement une combinaison face cachée. Vous allez devoir la deviner. Pour ce faire, vous allez avoir des cartes à votre disposition. Les cartes ont deux côtés, un côté avec un code, qui ne sera pas le vôtre, puisque vous le voyez. Et de l'autre côté, vous allez avoir, grosso modo, des combinaisons de codes. Vous allez prendre une carte qui a trois symboles, toujours, et vous allez essayer de matcher la combinaison de cette carte avec votre propre combinaison sans la savoir. Va en résulter un code. Un code qui dit, si c'est un cercle bleu, vous avez une de vos combinaisons qui correspond à la combinaison que vous avez prise et qui est en bonne position. Si c'est un triangle rouge, c'est que vous avez une combinaison qui est la même que celle sur votre carte, mais pas à la bonne place. D'où le mastermind. Et vous allez avancer comme ça, de carte en carte, pour essayer de deviner votre code à vous et dans quel ordre il se situe. Ça, c'est le jeu de base. Comment ça se joue en solo ? Ben, de la même façon, vous avez votre carte cachée, vous avez le tas de cartes complet, qui est face visible, et vous allez à chaque fois prendre deux cartes. Sur les deux cartes, vous allez en choisir une et défausser l'autre. Avec celle que vous avez choisie, vous allez essayer de décrypter votre code. Et vous continuez comme ça, vous en choisissez une, vous défaussez l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dès que vous avez trouvé votre code, vous vérifiez, si vous avez réussi, vous marquez un point, vous reprenez une carte face cachée, et vous continuez à jouer. C'est aussi simple que ça. À la fin, que vous avez dépilé tout le deck de cartes, les 35 cartes, vous comptez votre nombre de points. Alors, ça peut aller de 1 à 8, ça paraît difficile de faire 8, je ne sais pas comment c'est possible. Pour ma part, j'en suis à 3. Maximum deviné sur 35 cartes, ce qui est peu. Je me suis trompé deux fois, j'étais assez vénère pour le coup. Mais pourquoi je me suis trompé ? Parce que j'ai voulu accélérer et aller très vite pour essayer de marquer des points. Et tout le sel du jeu est là, aussi bien en multi qu'en solo. C'est que vous avez une possibilité de tenter un coup, de faire un coup de chance. Vous avez une possibilité de 1 sur 2, c'est un coup à tenter. Si vous réussissez, vous gagnez énormément de temps. Et si vous perdez encore plus de temps. Donc c'est un coup à prendre, c'est vraiment un pari. Et des fois, il se révèle vraiment, vraiment, vraiment pas gagnant. Mais voilà, le mode solo est très bien. Alors, j'ai une affection particulière pour les jeux de déduction. Si vous écoutez Soliloque, ou si vous m'écoutez sur d'autres plateformes depuis longtemps, vous le savez. Mais pourquoi Temple Code me marque très bien ? Parce que c'est un mastermind amélioré. Et mastermind, c'est un jeu que j'ai loin dans mon esprit, dans mon enfance, dans un jeu de déduction que j'apprenais quand j'étais tout gamin. Mon père me faisait jouer avec uniquement trois couleurs pour essayer de me faire comprendre comment fonctionnait le mastermind et comment essayer de deviner les choses. Donc là, avoir un mastermind qui revient un peu à cette Madeleine de Proust et qui me permet de jouer seul, c'est un vrai petit plaisir. Le jeu est rapide à mettre en place, il est rapide à jouer, il est très beau, on va pas se cacher, c'est une très belle illustration, même si c'est un peu plaqué dans l'histoire, quoi. Mais vraiment, moi, ça fonctionne très très bien. C'est un jeu que j'aime beaucoup sortir, et en solo, et en multi. À 2 ou à 3, ça fonctionne très bien, sachant que quand vous jouez en multi, vous n'attendez pas votre tour pour donner la solution, vous levez la main, vous dites « Hey, j'ai 3 solutions !» et vous dites « Si vous avez raison, boum, vous avez gagné un point. » Bref, Temple Code, c'est un jeu, vous avez compris, que j'affectionne énormément, qui touche à des petites cordes sensibles chez moi, donc c'est un jeu que je vous conseille très largement. Si vous aimez les jeux de déduction, foncez dessus, ça va être très simple pour vous et ça va être très rapide. Parce que dans tous les cas, vous avez des possibilités de notation qui vont évoluer. Au début, vous allez comprendre que, tiens, cette réponse-là me fait comprendre ça, mais parfois que la non-réponse est une réponse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, je vais revenir sur ces petits détails, je vous laisserai deviner, mais voilà, Temple Code, donc Yohan Levé, Banquise Edition, Jibs au dessin, franchement, c'est un très très bon jeu. On va faire un petit peu de jeu de rôle maintenant. Je vous ai dit que j'allais faire une deuxième partie. Je suis allé à Toulouse il n'y a pas si longtemps pour fêter l'alchimie. C'est la première fois que j'y allais. C'est un très bon festival. Si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Les gens sont fantastiques, c'est un festival très humain. Je comprenais pas ce terme au début, mais là je le comprends un peu mieux, j'arriverai pas à l'expliquer, bref, on s'en fout. Là, je vais vous parler d'un jeu dont vous êtes le héros, que j'avais repéré il y a un petit moment et que je n'arrivais pas à trouver en boutique, car épuisé un peu partout. Ce jeu s'appelle Fable Lands. C'est un jeu de Dave Morris et de Jamie Thompson. C'est un livre dont vous êtes le héros, illustré par Russ Nicholson et Kevin Jenkins. C'est un livre dans une collection livre-jeu, édité par Alconost. Globalement, c'est un livre dont vous êtes le héros, je ne vais pas vous le cacher. Là, on est sur du médiéval fantastique très simple. Vous avez votre fiche de personnage au début, des compétences à choisir, des lancers de dés à faire et des trucs à noter. Vraiment, pas grand-chose qui change d'un livre dont vous êtes le héros. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Dans Fable Land, y a deux petites particularités là. Une première, c'est que vous allez avoir parfois des codes que vous allez trouver qui vont vous permettre de faciliter certaines choses. Il y a aussi une possibilité de créer votre maison et créer un endroit où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez revenir régulièrement pour faciliter votre repos et faciliter votre mise au vert, si on peut dire ça comme ça. Non, la deuxième spécificité est celle qui m'a beaucoup intéressé dans le jeu, que je n'ai pas pu expérimenter encore, parce que je suis à peine, même pas à la moitié de cette histoire, sachant que j'ai fait une première partie qui s'est révélée vraiment désastreuse. Ce n'est pas de ma faute. Bref, dans Fable Land, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'il y a plusieurs tomes de ce jeu. Et chaque tome constitue un univers particulier. Il y a un tome sur les pirates, il y a un tome sur les ninjas, il va y avoir un tome sur plein d'autres choses. Bref, vous avez compris l'idée. Et le truc, c'est que vous allez pouvoir le faire un peu comme un loup solitaire, évoluer dans d'autres univers avec le même personnage. Le jeu vous le permet, mais vous pouvez commencer par n'importe quel univers. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer par le premier. Donc du coup, vous allez pouvoir évoluer votre personnage à travers tout ça. Et ça, c'est assez cool en vrai comme idée. Le jeu vous propose, dès que vous ouvrez la page, de dire, si vous ne commencez pas avec ce premier bouquin et que vous avez déjà un personnage qui a déjà fait des aventures, rendez-vous à l'entrée qui est précisée sur le bouquin d'avant. Et vous continuez votre aventure. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis vraiment curieux, vraiment, de l'expérience. Donc je vais au moins en prendre un deuxième derrière celui-ci et voir comment ça évolue. Donc Fable Land, Dave Morris, Jamie Thompson. Je vous en parlerai dès que j'aurai... avancer un peu plus, mais voilà, on trouve ça à une douzaine d'euros, 13 euros ici, je vois, 12,90 €, pardon. Le livre 1, Le Royaume Déchiré, chez Alconost Édition. Voilà, à vous, mes chères PJ joueuses et mes chers PJ joueurs. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et de profiter du mois suivant pour vous faire plaisir en onanisme ludique ou en groupe, mais en consentement toujours. Allez, ciao.
Merci Zéphiriel pour cette chronique. Alors, encore un jeu de Johan Levet.
Oui, et encore un jeu de déduction.
Ah, il est sponsorisé par Johan Levet.
Oui, et en même temps, c'est un jeu... Enfin, quand on aime le genre, qui remplit complètement, qui fonctionne bien.
Ouais. Tu as eu l'occasion d'y jouer, toi ?
Ouais, ouais, j'y ai joué et je l'ai même acheté pour faire jouer à mon assaut de jeux prochainement. C'est une sorte de revisite du mastermind. Et moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien parce qu'il y a cette idée de prendre des informations pour toi. Mais quand tu prends les informations, t'en laisses aux autres et il faut réfléchir à prendre celles qui vont t'aider, mais pas trop aider tes adversaires. Vraiment, c'est très efficace. Je conseille à tous les gens qui sont amateurs de ce genre de mécanique, de ce genre d'ambiance, d'aller jeter un œil parce que ça marche très très bien.
Et il nous dit que ça marche bien aussi en solo.
Probablement.
Bah, comme c'est les jeux de déduction, ça se fait... Ça marche bien aussi en solo.
C'est vrai.
Et le jeu, par contre, qui ne se joue pas en solo... C'est le jeu qui était le résultat de l'énigme de Ceci est un jeu. Alors on va écouter ça tout de suite.
Elias, je vais te soumettre une énigme.
Très inquiétante et troublante énigme que cette question.
Désolé, je ne joue plus au jeu de société depuis 5 ans.
Si tu réussis, je te couvrirai d'or.
Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme.
On va s'amuser.
Ceci est un jeu.
Salut les joueuses, salut les joueurs, ici Cargo. Bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Comme toujours dans cette chronique, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on commence par la règle.
Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles !
Ceci est la règle.
Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question.
Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu en question. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu, comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou le nombre de parties qui auraient été faites au week-end proxy jeu si ces pions n'avaient pas été oubliés. Vous avez quelques semaines pour répondre, et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
Ceci est la réponse.
Le jeu à deviner de la dernière énigme était Cosmopolite, un jeu de Florian Toscano et Julien Protière. Cosmopolite est un jeu coopératif dans lequel les joueurs ouvrent un restaurant dans lequel n'importe qui venant de n'importe quel pays va venir demander des plats dans n'importe quelle langue. Le jeu se joue avec une application sur téléphone. Et oui, le téléphone pleure car le téléphone représentera les différents clients qui vont se succéder et qui vont venir s'asseoir aux tables de votre restaurant et vous demander des plats typiques de leur pays dans leur langue. Les joueurs ont chacun un rôle précis. Un joueur incarne la serveuse.
Alors vous avez pas bien lu l'annonce, hein ?
Ah si, au contraire, je l'ai très bien lu. Complexe routier, recherche serveuse pompiste, 18-25 ans, de race blanche, blonde, célibataire, 95D et extrêmement motivée. Vous pensez bien que la NPE me l'a aussitôt transmise. Madame Le Pincec, inspection du travail.
Ouais, alors chacun ses critères pour choisir sa serveuse. Dans les faits, c'est la seule personne qui écoute les demandes des clients à l'aide d'écouteurs reliés au téléphone. Elle répète ensuite à haute voix la demande du client au joueur qui incarne le maître d'hôtel en lui indiquant le numéro de table qui demande ce plat.
Je suis maître d'hôtel au restaurant de la vie.
J'ai passé commande au creux de mon oreille, je me coupe en quatre pour mes amis.
Le maître d'hôtel prend note de la demande et va répéter le plat demandé plusieurs fois à tous les autres joueurs qui sont les cuistots. Les cuistots, eux, possèdent chacun des listes de plats de différents pays ou continents et vont devoir retrouver le plat qui a été demandé par le client via la serveuse et le maître d'hôtel. Quand le plat en question a été retrouvé, il est remis au maître d'hôtel qui le retransmettra à son tour à la serveuse qui le remettra au client de la bonne table. Le tout, évidemment, en temps limité, en temps réel, avec plusieurs clients en même temps, plusieurs plats simultanément et un boucan d'enfer avec tout le monde qui gueule des plats que personne comprend. Parce que oui, les plats sont prononcés dans une langue étrangère avec un bel accent. Ils sont répétés et aussi écrits phonétiquement ou plutôt translittérés. Alors évidemment, ça sera un peu déformé lorsque ça arrivera aux cuisines qui vont devoir interpréter tout ça.
Arthur ! Arthur !
Eh ben quoi ?
Oui,
Interprète !
Interprète !
Interprète !
Interprète ! Warrior !
Le jeu s'achève lorsque toutes les commandes ont été honorées ou lorsque la minuterie de l'application s'est arrêtée. Attention, si une table correctement servie rapporte des points, un indice demandé, une table réécoutée, un client mal servi ou un client pas servi du tout en feront perdre.
Y'a pas de pâté, y'a pas de poulet, y'a pas de riz, y'a pas de fruits. Y'a pas de pâté, y'a pas de poulet, y'a pas de riz, y'a pas de fruits. Alors je m'en vais, encore le sien, on n'est pas sérieux. Alors je m'en vais, encore le sien, sur le sang, on n'est pas sérieux.
Le jeu est un jeu évolutif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des progrès de l'équipe, on va débloquer de nouvelles cartes et de nouvelles difficultés, comme par exemple des tables supplémentaires en terrasse.
Même si tu dois partir, mon pote, attends un peu. Viens, on se pose en terrasse au calme, on boit un thé. J'ai envie de rire, j'ai envie de me fendre la poire. Même si on a des blèmes, en vrai, c'est pas la mer à boire.
La réponse de l'énigme était ainsi Cosmopolite, un jeu de Florian Toscano et Julien Protière. C'est illustré par Stéphane Escapa. Ça s'adresse à des joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 6 minutes. Mais honnêtement, généralement, on en fait plus qu'une partie. Et pour 4 à 8 joueurs. Et c'est édité par Jeux Hopla. Maintenant que vous avez la réponse, passons au tirage au sort.
Merci Cargo pour cette réponse. Alors, Cosmopolite. Alors, je ne l'avais pas. J'étais pas du tout dans la cuisine, moi.
Bon, alors, je veux pas être désobligeante, hein. Tu m'excuses si je le suis. Est-ce que depuis le début de la saison, tu as trouvé une réponse à ceci
oui,
est un jeu ou pas?
Bien sûr, j'avais trouvé Nida Velir, entre autres.
Ah oui.
Et encore un autre dont je ne saurais, dont j'ai oublié le nom.
Ok, bon, excuse-moi. Oui, j'avais le sentiment que tu disais souvent que... T'avais un petit peu galéré pour trouver...
Mais ce qui n'est pas galéré, c'est Dr. Cho, Olivier Link, Grovast, Altaripa, Kinarb, Gerny Lolo, qui ont trouvé et qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort. C'est sympa, ouais. Ils laissent la chance aux autres.
Ouais, et ça c'est bien, et on les en remercie. Alors Cargo nous disait en off que, en fait, dans toutes les réponses qu'il avait eues, il n'y avait eu aucune mauvaise réponse.
Alors ben voilà.
Et c'était suffisamment notable pour être noté. Je ne savais pas où m'emmener cette phrase et elle m'a emmené nulle part.
Alors, est-ce que tu as sorti ton dé de 17 parmi les 17 bonnes réponses?
Non. Bah, écoute, je vais choisir comme ça. Je vais prendre un nombre que j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses?
Vas-y.
Écoute, je vais dire le 13, parce que je suis sûre que ça va porter chance à quelqu'un.
Voilà, bah, c'est Krilin qui remporte le goodies proxy jeu.
Eh bien, félicitations.
Et qui nous laisse un petit commentaire, bravo pour votre travail. Et un petit coucou à Peter et ses amis des rencontres ludiques.
Ah d'accord, donc on profite des formulaires pour passer des petits messages personnels. Ok.
Voilà.
Très bien. Mais encore faut-il gagner.
C'est, ah ouais, c'est ça. Ouais,
c'est hasardeux.
Pour laisser des messages, faut trouver, l'énigme. Ensuite, faut laisser un commentaire dans le formulaire. Ensuite, faut être tiré au sort.
Tout à fait. Une chance sur 17.
Ouais. Vaut mieux laisser un commentaire sur le site, hein, pour.
Bah, ouais. Il y a plus Fais de ça la prochaine fois. Fais ça la prochaine fois, ouais. Laisse un commentaire directement sur le site.
Bah, maintenant, ça va être le temps de la prochaine énigme. On va écouter Cargo nous faire son énigme.
Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge.
Que voulez-vous dire? Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne?
Ceci est l'énigme.
Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. On range les écouteurs et Google Translate et on écoute la nouvelle énigme. Ça commence tout de suite.
Camarade, ce matin, c'est aujourd'hui le grand soin. Les drapeaux rouges, virgule, les drapeaux noirs. Depuis le temps qu'on nous l'avait promise, elle est là, la dictature du corps, du prolétariat. Camarade, la révolution s'épanne dans moins d'une heure. De Deauville à Noirmoutier, de Saint-Barthélemy aux fleurs.
C'est au sujet de quoi est-ce?
C'est au sujet qu'en fait c'est la mienne. Et je vais vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent.
Mais tout à fait. Eh bien, je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les baloches par les oreilles. N'y voyez aucune malice.
Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes bas. Je me ferai angora pour me blottir dans tes bras.
Seul avec du monde autour, seul avec du monde autour, seul avec du monde autour.
La forêt que je traversais était particulièrement célèbre. Un chef-d'œuvre de forêt. Et pourtant, je ne pensais qu'à deux choses. Un gigot aux haricots et un lit bien chaud.
C'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est gros. Ah, mon ancrage rêvé après le cœur.
Et voilà, l'énigme est terminée. On pose les crayons, je suis sûr que vous avez déjà la réponse. Mais vous pouvez bien évidemment la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant les timecodes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter le chouette goodie Proxy Jeu. Rendez-vous sur proxy avec un i-jeu avec un x.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez tout l'été pour me faire parvenir votre réponse. Ceci est un jeu, c'est fini pour cette saison, alors envoyez-moi un max de réponses pendant les vacances. En tout cas, d'ici la rentrée, jouez bien!
Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre votre messe.
Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
Hasta la vista, baby.
Merci Cargo pour cette énigme. Alors, je vais rien dire sur le fait que si j'ai trouvé ou pas trouvé. Parce que tu vas encore me dire que j'ai jamais trouvé. Donc, je ne me prononce pas. Je vais réécouter cette énigme.
D'accord, parce que là, ça donne le sentiment que tu n'as pas trouvé, hein.
Mince, je suis découvert. Vite, faut faire quoi? Faut grignoter.
Oui, c'est ça. Derrière le buisson jaune.
Ah, mince.
Pas trouvé. À vue. Hein. C'est pas très discret.
Mais alors, tu
me poses pas la question? Oui.
Bah non, parce que je suis sûr que tu as trouvé.
Bah oui, j'ai trouvé.
Oui, mais t'es trop forte aussi. Hein. Quelle médaille? Alors on va dire quelle médaille?
Est-ce que... Ouais, médaille d'argent.
Ah ben voilà, parce que t'étais pas réveillé à 2h du matin quand il l'a posté, c'est ça?
J'étais pas encore couché. Oui, c'est ça, parce que pour avoir les médailles, il faut être soit des lèvres super tôt, soit des couches super tard. Hein. Et puis il faut être sur... moi, ça faisait 3 jours que j'étais sur le qui-vive, attendre que l'énigme sorte.
F5.
Ah, c'est infernal. C'est infernal. Faut que j'arrête la compétition, hein, c'est pas possible.
Oui, c'est ça. Pour te remettre de cette compétition, je pense que on va s'arrêter là pour te remettre de toutes ces émotions.
Oui, alors heureusement, c'était la dernière chronique de cette année parce que comme on est au mois de mai, il y a toutes les chroniques qui passent un mois sur deux qui nous ont souhaité un bel été déjà. Et c'est le cas de Ceci est un jeu, hein, c'est la dernière de la saison.
Oui.
Donc là, j'ai 3 mois tranquille.
C'est trop... Et moi, j'ai 3 mois pour trouver. Donc,
oui, c'est ça. T'as tout l'été, oui.
Voilà, tout le monde est content. Et donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant l'émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, sur Mastodon, dans les commentaires. Et surtout, parlez de nous autour de vous.
On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode des Jeux du Mois, présenté par un duo vraiment extra, un extra. Super duo.
Vraiment, super duo, t'en fais partie, c'est ça?
Oh, bah moi aussi, je suis pas discrète. Oh, la barbe. Et puis, le mois prochain, pour les dernières chroniques de la saison.
Ouais.
Et en attendant, jouez bien.
Société avec vos animatrices, méditez des chutes. Méditez des chutes.